à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Xavier Bioy. Xavier Bioy, bonjour.
Bonsoir.
Xavier Bioy, vous êtes professeur de droit à l'Université Toulouse-Capitole. Vous avez 49 ans, vous avez 6 enfants. Bel exploit dans le contexte actuel.
Merci, je ne suis pas seul.
Vous n'êtes pas seul, mais de plus en plus rare à avoir des familles nombreuses. Il faut dire que notre organisation, ne serait-ce que la taille des voitures, la taille des appartements, etc., c'est quand même pas évident, donc bravo. Et vous êtes donc de la paroisse de Tournefeuille. Parmi vos titres, parce que vous faites beaucoup de choses à l'université, vous êtes vice-doyen de la faculté de droit et vice-président du conseil d'orientation de l'espace éthique régional.
Tout à fait.
Donc, je pense que nos auditeurs comprennent pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour débattre dans « À bâton rompu » avec moi. Il y a deux sujets, évidemment, qui nous préoccupent, nous, chrétiens, catholiques. C'est d'abord le fait d'inscrire l'IVG dans la Constitution, si vous le voulez bien, on parlera évidemment de ce point. Et ensuite, c'est le résultat des travaux de la Conférence citoyenne sur la fin de vie, qui est un vrai débat. Donc, merci d'être venu pour débattre avec nous de tout ça. Je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'est le Conseil d'orientation de l'espace éthique régional.
Oui, absolument. Le Code de la santé publique a créé en 2004 des espaces éthiques régionaux pour assurer une forme d'animation autour du Comité consultatif national d'éthique, qui est national, comme son nom l'indique, une forme d'animation régionale, c'est-à-dire à la fois faire descendre de l'information vers les citoyens sur toute l'éthique des sciences d'une façon générale, et également faire remonter cette information vers le CCNE et vers le gouvernement lorsqu'on
CCNE,
a des états, Comité consultatif national d'éthique, présidé actuellement par Jean-François Delfrécy, et qui est associé à la préparation des textes par des états généraux. États généraux de la bioéthique, et la conférence sur la fin de vie. Donc actuellement, l'espace régional, qui est présidé par le professeur Clanet et par le professeur Jacques Bringer, écume la région en termes de conférences, d'animation, de réflexion, pour faire remonter ensuite des expériences du terrain vers le Comité constitutif national d'éthique.
Et donc tout ça participe à la réflexion ou fournit en tout cas un certain nombre d'éléments à la réflexion justement sur de la conférence citoyenne sur la fin de vie, j'imagine.
En partie, je suppose, oui, qu'il y a un retour d'expérience qui leur est fait par les différents intervenants qui les forment aussi au cours de leur débat.
Donc on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle en quelques instants de du fait d'écrire dans la Constitution l'IVG comme un droit pour les femmes. Alors, j'ai vu en écoutant l'actualité que le président Macron avait clairement, lors de la commémoration de Madame Halimi, avait clairement exprimé son souhait de mettre dans la Constitution la liberté pour les femmes, ce qui a provoqué un débat. Puisque certains ont dit, attendez, mais mettre la liberté, c'est pas assez, on devrait carrément inscrire dans la Constitution que c'est un droit pour les femmes, ça irait plus loin, etc. Est-ce que vous qui êtes constitutionnaliste, vous pouvez nous éclairer sur ce débat ?
Je peux essayer, c'est comme on dit à la faculté de droit, un débat doctrinal, donc ça appelle un certain nombre de concepts et un certain nombre de techniques qui sont un peu précis chez les juristes, et en même temps il y a toujours un débat parmi nous, donc je ne pourrais donner que ma version. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce projet de loi constitutionnelle, qui était d'abord une proposition de loi constitutionnelle venant du Parlement, il y a eu une forme d'impréparation réelle qui nous a confrontés à trois versions du texte différentes, avec trois places différentes dans la Constitution, avec donc trois significations en réalité assez différentes. Au départ, on était parti dans l'idée d'un nouvel article 66-1, c'est-à-dire tout près de l'interdiction de la peine de mort, de façon à donner un peu à l'autorité judiciaire le soin de garder ce droit à l'IVG. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc l'Assemblée nationale a retoqué cette version-là et a proposé ensuite, dans une seconde version, qu'il y ait une réforme de l'article 34 confiant à la loi le soin de consacrer un droit à l'IVG. Et puis pour éviter donc cette dimension de droit, il a plutôt proposé le terme de liberté de façon à essayer de conserver l'existant. Alors, il y a l'intention des auteurs du texte, et puis il y a ce qu'on peut en espérer pour l'avenir, la façon dont on peut l'interpréter par la suite. Clairement, le projet venant des bancs de la Macronie et de la gauche a pour but de sanctuariser l'état du droit actuel, c'est-à-dire de mettre la loi actuelle sous la protection de la Constitution, mais avec une possibilité d'aller au-delà, c'est-à-dire de réinterroger aussi l'équilibre qui est fait aujourd'hui entre la protection du fœtus d'un côté et la liberté de la femme de l'autre. Donc par le mot droit qui sous-entend un droit opposable, c'est-à-dire la possibilité d'exiger finalement de pouvoir avorter, il y avait l'idée de pouvoir éventuellement aller plus loin. Alors là il faut que je revienne un peu dans l'histoire de l'IVG pour qu'on comprenne où sont les équilibres contemporains, si vous voulez. La loi Veil avait posé le principe d'une dépénalisation, donc d'une liberté. Certains disaient même que c'est simplement une tolérance, en réalité, puisque le principe reste la protection de la vie. Et puis, des conditions de délai, des conditions de détresse, de consultation d'un médecin, d'une assistante sociale. On a oublié tout ça, mais il y avait une dizaine de conditions qui étaient posées par la loi, et c'est cet équilibre oui. d'ensemble
et
qui faisait
comme
le système.
Comme toujours, au départ, on veut encore cadré, donc on dit non, mais attendez, c'est pas laxiste, c'est pas, ça sera dans des cas bien précis. Et puis l'histoire nous montre chaque fois que finalement on oublie toutes les contraintes et ça devient
probablement,
open bar.
On peut faire une analyse effectivement aux différentes lois, puisqu'il y a eu 3 révisions, voire 4 de la loi sur l'IVG, à chaque fois enlevant une contrainte, effectivement, enlevant une condition. Et il ne reste plus aujourd'hui que la condition de délai, en réalité, qui elle-même a été allongée de 10 à 12, puis de 12 à 14. Donc effectivement, aujourd'hui, les conditions sont faibles, et le problème pour les soutiens du droit à l'IVG, c'est l'accès effectif, c'est-à-dire de trouver les médecins, les cliniques, et de le faire dans les délais. Donc c'est pour compléter ce manque de leur point de vue qu'ils voudraient appeler ça plutôt un droit, mais c'est d'ores et déjà un droit, hein. il faut le dire, si on regarde les textes tels qu'ils sont aujourd'hui, il y a un remboursement.
Le fait que ça soit dans la Constitution, en fait, ne va pas changer sur ce plan-là le droit à l'IVG.
Voilà, je crois qu'actuellement, si on constitutionnalise la liberté, ça ne changera rien à l'état du droit. Vouloir mettre le mot droit risque de renverser, à mon sens, l'équilibre dans l'autre sens. C'est là où je voulais en venir en vous donnant les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale, et puis il y a une position contre les tiers. C'est-à-dire que nous avons 2 délits d'entrave à l'IVG, soit physiquement, soit par désinformation de la personne de la femme qui cherche à se renseigner sur l'IVG. Donc nous avons un droit qui est garanti, finalement, qui est opposable aux tiers, mais la liberté de l'IVG donne surtout la liberté à la personne qui fait l'avortement, qui pratique l'avortement, de le pratiquer. C'est moins techniquement un droit de la femme qu'un droit du tiers de pouvoir le faire, puisque l'auto-avortement est déjà dépénalisé et la femme n'est pas poursuivie pour l'avortement. C'est la personne, c'est le médecin ou la sage-femme qui va procéder à l'avortement.
Donc avec, si je comprends bien, avec le mot liberté, les médecins pourront refuser si c'est non conforme à leur propre éthique.
Alors, c'est l'un des aspects, c'est la question de la clause de conscience, effectivement. Jusqu'à présent, on donne la possibilité au médecin de pratiquer l'avortement ou de ne pas le pratiquer. Donc la femme a la liberté de le demander et le médecin a la liberté de l'accepter ou de le refuser. Si on parle d'un droit, l'imaginaire de ceux qui le revendiquent, c'est d'en faire un droit opposable à tous, c'est-à-dire d'obliger l'État à trouver les personnes qui nécessairement pratiqueront cette IVG. Et il faut bien voir que dans la Constitution, actuellement, il y a un équilibre entre la dignité de la personne humaine qui protège le fœtus d'un côté et il y a la liberté de la femme, la liberté corporelle qui permet à la femme de demander l'interruption volontaire de grossesse. Donc on a un équilibre constitutionnel. L'idée de ne renforcer que la partie liberté aura pour effet, me semble-t-il, de déséquilibrer le système parce qu'il n'y a pas dans notre Constitution le droit à la vie. Autant il est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, autant il n'est pas dans notre Constitution de façon explicite. Je pense personnellement qu'on peut le déduire de l'interdiction de la peine de mort, qui, elle, a été constitutionnalisée, cette interdiction. Donc que protège l'interdiction de la peine de mort si ce n'est la vie? Mais la doctrine n'est pas unanime, parce que c'est pas marqué. Il n'y a pas marqué droit à la vie. Oui. Donc si explicitement le législateur constituant renforce le côté liberté de la femme, sans renforcer de façon équivalente, en écrivant aussi dans la Constitution qu'il existe par ailleurs un droit à la vie dont le fœtus peut être bénéficiaire, puisqu'il ne peut pas être titulaire, puisqu'il n'a pas de personnalité juridique, mais au moins il peut être bénéficiaire d'une protection que lui accorde l'État, on aura donc une priorisation donnée à la liberté de la femme. Ce qui signifie que les deux dernières conditions ou contraintes qui restent, c'est-à-dire le délai d'un côté et la clause de conscience des médecins de l'autre, n'auraient plus de fondement constitutionnel, ne seraient plus eux-mêmes protégés ou garantis de la même façon. Donc, je pense que ceux qui sont sincères en disant « on ne fait que constitutionnaliser l'existant, c'est juste une protection au cas où un régime autoritaire reviendrait et voudrait supprimer l'IVG », je pense qu'ils sont pour la plupart des cas sincères. Je pense que certains voudraient aller au-delà en supprimant les dernières conditions ou contraintes sur la liberté des femmes et voudraient ainsi déstabiliser le système actuel. En tout cas, c'est un risque que je vois de façon très nette.
Mais, enfin, moi je trouve ça extrêmement grave. Sur le plan de mon éthique chrétienne, catholique, de pouvoir attenter à la vie est sacrée. Et donc, évidemment, personnellement, je suis contre l'avortement, mais l'IVG, tel que vous le dites, finalement, si c'était inscrit dans la Constitution comme une liberté, si je comprends bien, au fond, les femmes pourraient exiger de recourir à l'avortement, même après 14 semaines.
Si c'était formulé en termes de droit.
Si c'était formulé en termes de droit.
En termes de liberté, il me semble qu'on conserve l'existence sans plus. Mais si on va sur une formulation en termes de droit, on pourrait y mettre une représentation plus libérale,
jusqu'au
plus autonome pour la femme. Oui, parce que par ailleurs, on a supprimé la condition de détresse pour l'IVG. Et cette condition de détresse, elle est réinterrogée sur l'interruption médicale de grossesse. Actuellement, on peut avorter sans délai, s'il y a un danger pour la vie de la femme ou si l'enfant est porteur d'une pathologie incurable et grave. Mais il y a un contrôle par les médecins de ces deux conditions. Or, quand une femme est porteuse d'une pathologie mentale, d'une forte dépression, et qu'elle considère que la grossesse l'amènera au suicide de façon gravissime, on coche la première condition. C'est-à-dire qu'une détresse extrême est encore la possibilité d'avorter sans délai. Au médecin psychiatre d'apprécier le caractère extrême, la mise en danger de la femme, si vous voulez. Donc, ce qu'on a supprimé pour l'IVG pourrait aussi être supprimé pour l'IMG en se disant qu'après tout, elle peut disposer sans délai, eu égard à une acception large de cette condition de détresse.
Oui, donc ce débat n'est pas neutre du tout en réalité. Je n'avais pas personnellement bien compris justement ce débat entre la liberté d'un côté, inscrire la liberté dans la Constitution et donner le droit, là, il n'y a plus de frontières.
La question, c'est l'opposabilité.
Oui.
À qui est-ce qu'on pourra opposer son droit, de qui on pourra exiger la prestation? Et le grand risque, c'est la suppression de la clause de conscience et c'est l'obligation de l'État de fournir toujours l'avortement quand on le demande. Mais c'est aussi la contrepartie, effectivement, de l'autonomie de la femme de pouvoir le demander. Donc il faut voir ce qui se passe un petit peu à l'étranger. La Suède, par exemple, considère que l'IVG est un acte qui rentre dans la nomenclature exigible des sages-femmes et des gynécologues. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'objecteurs en Suède parmi le personnel médical dans l'obstétrique.
Ils sont obligés de...
On est obligé. Ça fait partie de la fiche de poste, entre guillemets. Et donc on a des cas qui ont été jugés par la Cour européenne des droits de l'homme, de sages-femmes qui n'ont pas pu rester dans la profession ou s'y inscrire parce qu'elles refusaient de pratiquer des IVG, donc elles sont devenues simples infirmières, elles ont été exclues du secteur, et la Cour européenne a considéré que l'État pouvait très bien imposer ça, que ce n'était pas une méconnaissance de la liberté de conscience de ces soignants. Donc on n'est pas à l'abri en France aussi.
Oui, ce qui s'applique en Suède pourrait s'appliquer en France.
Si l'État choisit effectivement de considérer que ça fait partie de la panoplie des personnels obstétriques, ça pourrait être imposé aux soignants. Et la protection de la clause de conscience serait d'autant plus fragilisée pour l'IVG. Elle pourrait continuer pour d'autres actes et être imposée pour l'IVG.
Mais voyez, ce qui m'inquiète, monsieur le professeur, c'est que ce débat que nous avons là, qui est un débat essentiel, où justement... on essaye de garder quelques digues devant une permissivité extrême. Personne ne parle de ça. C'est-à-dire que quand le président Macron dit « on va inscrire dans la Constitution la liberté » et que d'autres disent « mais pourquoi la liberté, il faut mettre le droit », personne ne pose les termes du débat tels que vous venez de nous l'expliquer. Vous trouvez ça normal ?
Je crois qu'on le lit entre les lignes des gens qui sont favorables à l'extension de l'IVG, qui parlent d'une trahison lorsque l'on parle de la clause de conscience des médecins. Ils disent que c'est une trahison à l'égard de la liberté des femmes et un non-respect du droit des femmes.
Ce qui, effectivement, est extrêmement choquant pour quelqu'un qui aime la vie, c'est que dans cette histoire, les femmes, sous prétexte de liberté, n'envisagent jamais qu'il y a une troisième personne, parce qu'il a fallu être deux quand même pour concevoir un enfant, mais il y a une troisième personne qui est vivante dans le ventre. Alors même si elle n'a pas la personnalité juridique, c'est quand même un être vivant. Et ça, on n'en parle pas.
Alors peut-être que le débat doit être déplacé sur la question de la compétence, c'est-à-dire que nous sommes dans un système démocratique pluraliste, et la question est de savoir si cette question peut être, la question de l'avortement, peut être une question privée ou si elle est nécessairement publique. C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'État de décider moralement de ce qui est bien ou mal en matière d'IVG, ou est-ce qu'on laisse l'autonomie aux personnes ? La personne est obligée d'avorter. Si la femme veut garder l'enfant, elle pourra le faire. Donc c'est simplement de savoir si c'est à l'État de régir cette question. Et c'est vrai que selon un réflexe que nous avons ancré dans nos traditions judéo-chrétiennes, on considère que l'État doit afficher les valeurs consensuelles les plus protectrices de la vulnérabilité. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce que le grand public considère comme nécessaire lorsqu'il est question de liberté des femmes, de liberté corporelle. À titre personnel, je pense qu'on est tombé dans un excès en la matière.
Moi, je pense qu'on est tombé vraiment dans un excès et que, en général, les catholiques et les chrétiens, évidemment, rejettent. Mais il y a aussi une autre raison, moi, je trouve, qui devrait nous amener à nous positionner clairement contre cette inscription dans la Constitution. C'est que, pour moi, naïvement, la Constitution, c'est une espèce de ciment collectif qui doit susciter l'adhésion de tous. C'est-à-dire qu'on est français parce qu'on adhère à une Constitution et que cette Constitution est le ciment et le socle des valeurs de tous les Français. Or, quand on met un sujet aussi polémique que l'IVG, sur lequel on peut dire qu'il y a peut-être une majorité de Français, mais enfin, il est loin d'y avoir unanimité, et il y a quand même beaucoup de gens qui sont absolument contre. Quand on met ça dans la Constitution, ça veut dire qu'on renonce à un socle de valeurs communes, puisque par définition...
Là, vous soulevez effectivement l'aspect politique. Au départ, nous avons une proposition de loi constitutionnelle qui implique un accord des deux assemblées, et ensuite un vote au référendum. C'est-à-dire que là, on saisit l'ensemble des citoyens pour une étape importante, qui est effectivement l'inscription d'une valeur dans la Constitution ou de son contraire. Là, en l'occurrence, l'accord s'est fait à minima avec un Sénat qui a été assez habile pour dire si on a un accord, c'est uniquement sur l'existant et non pas plus. Donc on va parler de liberté et non pas de droit. Et le président Macron aurait pu tenter le référendum de ce fait. Il avait un consensus entre les deux chambres sur une protection à minima, ce qui est le discours qu'il tient. Mais là, il souhaite plutôt passer par le Congrès, donc de nouveau relancer une majorité où il faudra des 3/5, il est possible qu'ils l'obtiennent. Et l'enjeu de la détermination droit ou liberté, est-ce qu'on ouvre la possibilité d'avoir une loi qui aille encore plus loin ou est-ce qu'on garde l'existant, sera le vrai enjeu. Mais là, d'une certaine façon, en refusant le référendum, il a effectivement confisqué l'aspect démocratique de cette réforme sociale.
Oui, bon, j'espère que, comme les référendums sont toujours des choses qui sont extrêmement dangereuses pour celui qui pose la question, hein, parce que l'expérience prouve que...
Une pratique plébiscitaire,
voilà, on dit plutôt non à la personne qui a posé la question qu'à la question elle-même. On l'a bien vu pour le général de Gaulle en 1969, bon. Et pour les autres référendums d'ailleurs. Bien, mais ça nous amène à parler de deuxième point, c'est cette fameuse conférence citoyenne sur la fin de vie, parce que là, on a un débat qui est de même nature. Sur la fin de vie aussi, quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui ont légalisé la fin de vie, je pense en particulier à la Belgique et au Canada, et à un degré moindre peut-être la Suisse, mais qui ont légalisé l'euthanasie. Au départ, c'est le même principe. Il y a tout un tas de conditions extrêmement restrictives. Ça ne peut se faire que si, ceci, ceci et cela. Et puis, au fil de l'eau, en Belgique, on voit que 10 ans après, hein, puisque la première loi date, je crois, de 2010 ou 2012, eh bien, on n'a pas arrêté, au fil de l'eau, de relâcher les contraintes. Et aujourd'hui, on en est à légaliser, à autoriser l'euthanasie pour des gens qui sont en dépression, pour des gens qui sont des adolescents, etc. ça, on a le sentiment que ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une personne âgée gênera son entourage, on finira par la convaincre qu'il faut qu'elle demande à ce qu'on la supprime, et on la supprime. C'est le sentiment qu'on a. Donc vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous en pensez ?
Là, ce sont des faits. Effectivement, la loi belge a été réformée 3 ou 4 fois pour intégrer les mineurs, et puis les souffrances mentales, et puis pour alléger les conditions procédurales aussi. De la même façon, on constate que le nombre des euthanasies pratiquées en Belgique augmente régulièrement chaque année. Donc effectivement, la loi suit les évolutions sociales, et lorsque la loi consacre un nouvel état des valeurs en permettant un principe, donc l'accès à la mort, la société s'y habitue et a tendance toujours à élargir les catégories. Bon, ça c'est une tendance assez objective.
Oui, mais on est mesurer. Dans une société qui mortifère. Moi, je trouve qu'on est dans une société mortifère.
Dans une société qui ne veut plus la souffrance, y compris la souffrance mentale. Et là, on confond souvent le mal-être de la personne avec la souffrance, parce que les termes utilisés en psychiatrie sont des termes ambigus sur la façon dont la personne vit les choses. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu au mois de novembre un très intéressant arrêt justement contre la Belgique, qui a été condamnée pour l'euthanasie d'une personne d'une soixantaine d'années, dépressive, mais dépressive chronique depuis une quarantaine d'années, en conflit familial avec son fils, refusant que son fils soit informé même de son acte létal. Et elle a été suivie par un psychiatre de nombreuses années qui pensait qu'elle était encore curable. Et donc, comme c'est une des conditions, il faut que la pathologie soit incurable, elle ne pouvait pas recourir à une euthanasie. Donc elle a changé de médecin, elle est allée en voir un qui est un acteur d'une société médicale pro-euthanasie, qui n'était pas psychiatre, mais qui lui a donné les coordonnées d'un psychiatre qui pouvait l'entendre, qui elle-même a hésité en disant « je ne suis pas sûr que vous soyez entré dans les conditions ». Donc elle a trouvé un troisième qui a dit « bon, mais moi je suis assez d'accord », qui avait été formé par le médecin premier dirigeant cette association pro-euthanasie. Et puis en l'espace de 4 mois, la décision a été prise et elle a pu bénéficier d'une euthanasie. Et ce médecin qui présidait cette association était aussi membre de la commission qui contrôlait a posteriori la déclaration d'euthanasie, puisque quand l'acte est fait, le médecin doit faire une déclaration à cette commission, et ensuite il reçoit un dossier avec 2 volets, un anonyme, un non anonyme, et la commission vérifie les conditions, vérifie que tout a été coché et qu'il y a bien les 2 certificats médicaux attestant de la situation de souffrance grave, incurable de la personne. Donc la Belgique a été condamnée non pas parce qu'elle donne l'euthanasie, non pas parce qu'elle la donne à une personne dépressive, non pas parce que le diagnostic de dépression n'a été contrôlé que par une seule personne, mais parce que il y a eu un conflit d'intérêts. Ce monsieur ne s'est pas déporté le jour où le dossier est arrivé sur la table, parce que, comme l'affaire est anonyme, s'il s'était déporté, il aurait révélé que c'était lui qui avait pratiqué l'euthanasie. Donc la Cour européenne a dit « c'est un peu compliqué votre système, il faudrait que les choses soient un peu plus transparentes ». Mais on voit bien la dérive dont vous parliez tout à l'heure. On voit bien que 2 personnes peuvent décider avec une troisième de la vie et de la mort de cette personne.
C'est quand même hallucinant que notre société en soit là aujourd'hui. Moi, je trouve que on est dans une spirale où on se demande où ça peut s'arrêter. Je trouve que le pape a raison de dénoncer tout ça. Mais à votre avis, quelles sont les chances d'être entendus pour nous chrétiens qui sommes contre ces pratiques ? Faibles aujourd'hui ?
Oui, dans le contexte politique actuel et dans la formation au Parlement... J'ai peur qu'effectivement ce message ne soit pas entendu, parce que toute la tendance quand même de nos sociétés est à augmenter les libertés de l'individu et surtout à faire de l'individu la mesure de toute chose. C'est-à-dire d'apprécier de lui-même quelle est sa dignité, quel est le sens donné à sa vie, et de considérer que les autres doivent accepter la façon dont ils voient les choses pour lui-même. Et ça, cette tendance-là est quand même une tendance lourde, assez contradictoire avec d'autres mouvements où on voit les communautarismes remonter aussi, où on voit que l'individu a besoin d'être entouré, d'être dans un groupe, de partager des valeurs. Et donc c'est assez contradictoire entre ce mouvement-là que portent d'anciennes religions et de nouvelles religions, et de voir qu'il y a quand même toujours une revendication vers toujours plus de droits individuels. Alors je ne suis pas hostile, moi, à cette augmentation des libertés individuelles, mais il faut toujours qu'elle ait, me semble-t-il, un sens dans la société,
oui,
et
là,
que surtout ne dégrade pas l'image de la personne. Parce que,
oui, et puis surtout, là, ça va plus loin. Hein. On a toujours dit, nous chrétiens, mais pas que nous, c'est pas bien de se suicider, il faut pas le faire. Mais en même temps, si les gens sautent par la fenêtre, ils sautent par la fenêtre. Bon, nous, on est contre.
C'est un fait, juridiquement, ce n'est pas poursuivi.
Mais là, on demande à une tierce personne d'intervenir. C'est ça qui est grave, je trouve. Hein? Et donc, on demande finalement à quelqu'un de tuer une autre personne. Alors, bon, il y a la loi, Leonetti qui déjà, mais dans des conditions bien précises, permet, dans le cadre de soins palliatifs et d'une sédation profonde, de ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Et ça, je pense que personne ne conteste cette idée de l'acharnement thérapeutique. Au fond, laissons faire la nature et puis voilà, et essayons d'alléger la souffrance autant qu'on peut le faire, la souffrance physique. Mais là, c'est un autre cap. Donc moi, c'est ça qui...
On est dans la même configuration que l'IVG. En réalité, cette loi, elle a pour principe de permettre à un tiers de tuer. Elle ne donne pas tellement un droit supplémentaire à la personne qui va mourir, qui pourrait se suicider par elle-même si elle le pouvait.
Exactement.
Donc là, en l'occurrence, c'est le permis pour la personne d'agir par compassion. Et cette compassion-là, elle est souvent obscurcie.
Voilà. Donc on n'est plus dans la liberté individuelle. Vous voyez, là, c'est ce que vous disiez.
On est dans une double liberté individuelle, la liberté de demander et la liberté de donner. Or je pense qu'il n'y a généralement pas assez de contrôle sur le diagnostic, sur la souffrance, sur la qualification, surtout quand on est sur un terrain psychiatrique. Des souffrances physiques, c'est une chose.
Je vais caricaturer, mais prenons des personnes âgées qui sont une charge pour leur entourage, etc. Bon, eh bien, au bout d'un moment, on va lui faire comprendre que finalement, il vaudrait mieux que tout ça s'arrête.
Mais sans lui faire comprendre, on entend beaucoup de personnes âgées qui ne veulent pas être un poids pour leur enfants ou pour leur entourage et qui s'excusent d'être là.
Oui, mais donc voilà, si vous laissez une façon à bon compte pour une génération de se débarrasser de la précédente. Quoi,
Donc la question est de savoir si en fixant des conditions, on peut éviter cette dérive ou si de toute manière, en admettant le principe que l'on puisse aider quelqu'un à mourir, les conditions suivront petit à petit.
C'est ma crainte.
C'est la mienne également.
C'est la crainte de beaucoup de gens. Bon, je crois que notre temps est écoulé. C'est un débat qui, évidemment, sur lequel nous reviendrons sûrement dans le cadre de cette émission. Merci, monsieur le professeur, de nous avoir éclairé de vos lumières.
Merci, Benoît, de m'avoir réinvité à ce micro. C'est toujours un très grand plaisir.
Merci à vous.